Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Judaïka pour une nouvelle émission des rendez-vous du CCOJB. Mon nom est Miko, je suis membre du comité directeur du CCOJB. Aujourd'hui, je serai accompagné de Véronique Lederman, également membre du comité directeur, et à la technique de Clément. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous avons le plaisir de recevoir Adolphe Nissenholz, président de l'Enfant Caché. Il y a deux semaines, nous recevions en studio Gitla Schiffer, Willy Wallstein et Marcel Zalk pour nous entretenir avec eux des associations de la mémoire 79 ans après la libération du camp d'Auschwitz. Adolphe Nissenholz, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission des rendez-vous du CCOJB. Bien que persuadé qu'un très grand nombre de nos auditeurs vous connaissent, je me permets de brièvement vous présenter. Vous êtes né le 24 novembre 1938, ici à Bruxelles. Auteur, écrivain, vous avez notamment écrit une œuvre sur Charlie Chaplin en 1979 et aussi une autre très importante intitulée « Boubeleu, l'enfant à l'ombre ». Vos parents ont été déportés à Auschwitz, dont ils ne reviendront pas, mais auparavant, en 1942. Donc, à l'âge de 4 ans, vous êtes placé dans une famille flamande, à Ganshoren, dans le nord de Bruxelles. Dans votre livre, « Boubeleu, l'enfant à l'ombre », que vous écrivez à la mort de vos sauveurs, il y a un passage très émouvant, celui où votre maman vous laisse dans cette famille pour vous permettre ainsi d'échapper à la déportation. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, si vous le voulez bien. Actuellement, vous êtes président de l'Enfant Caché. Ma première question se rapporte donc à cette institution, membre du CCOJB. Cher Adolphe, parlez-nous de cette institution. Comment est-elle née ? Qui la compose ? Quelles sont ses réalisations et ses éventuels projets ?
Officiellement, l'association belge de l'Enfant Caché est née en 1991. À la suite de la grande conférence internationale qui a eu lieu à New York, dans l'hôtel Marriott, au Times Square, où pour la première fois se sont réunis, pas des centaines, mais plus que milliers d'enfants cachés venus du monde entier. Et jusque-là, les enfants ont constaté qu'ils sont restés cachés. Et cette réunion internationale leur a permis de se rendre compte qu'il y en avait d'autres qui avaient été cachés aussi, qui étaient si bien cachés qu'ils étaient cachés à chacun. Mais si on remonte un peu dans la préhistoire, il faut remonter au film « Comme si c'était hier » de Esther Offenberg et Myriam Abramovitch. C'était Myriam qui avait interrogé sa maman en lui demandant comment elle avait été sauvée. Et donc, elle avait été sauvée notamment par le Comité de défense des Juifs, le CDJ et autres. Et Myriam a donc voulu interroger les personnes du sauvetage, personnalités juives et aussi non-juives, dont notamment Yvonne-Ève Jean, qui était la directrice de l'ONE. Et elle voulait en faire un livre. Mais finalement, elle s'est rendue compte que ça serait plus rapide de le faire avec un film. Et aidée par Esther Offenberg, qui a produit le film et qui était à Paris, et qui avait d'ailleurs des connaissances à Bruxelles aussi. Ce film est très important parce que c'est la première fois qu'on dit que l'expression « enfant caché » apparaît. Donc, historiquement, c'est extrêmement important. Maintenant, que ce soit deux femmes qui aient révélé ce problème, c'est peut-être pas quelconque. Et le film a cheminé, a été montré dans les campus aux États-Unis, et ainsi de suite. Et un jour, sa maman lui dit « Mais il faudrait une fois réunir ces enfants. » Elle pensait qu'il y en avait 2-3 dizaines ou quoi. Bon. Et ça a donc donné lieu à cet immense congrès comme les Américains peuvent l'organiser. Il y avait une délégation belge d'une 50aine de personnes, dont Sophie Reichmann et autres, qui ont été là-bas et qui sont revenus en se disant « Mais on va créer une association en Belgique. » Il y en avait une en France aussi, mais celle en France n'a pas vécu très longtemps. Il y a eu un combat des chefs et ça s'est entre-déchiré. Bon. Tandis qu'en Belgique, cette association existe toujours. D'abord, elle était fondée comme association de fête. Puis un ou deux ans après, il y a eu des statuts publiés au Moniteur qui a officialisé donc, cette association de fait en ASBL. Alors, au moniteur ont été publiés les buts de l'association, la raison sociale, la raison d'être. Et donc, évidemment, la première raison, c'est de son existence, de cette association, c'est de préserver la mémoire de l'enfant caché. Mais qui dit enfant caché, ceux qui ont survécu et qui ont fondé donc cette association ne pouvaient, avaient bien conscience d'être là parce qu'ils avaient été sauvés. Donc, sauvé, sauveur, c'est un couple indissociable. Et ce qui explique que l'association a vraiment pris en charge la mémoire de ceux qui ont risqué leur vie pour préserver leur vie et au risque de leur propre vie. Et donc, l'association a encouragé à ce que des dossiers soient déposés pour que les sauveurs deviennent des justes. Bon. Alors, des justes, pour le moment, il y en a à peu près, même pas 2000. C'est quand même énorme. Ouais. Mais si on calcule un peu les choses, comme il y a eu au moins entre 25 ou 28 000, ou peut-être 30 000 juifs sauvés en Belgique, il y a eu au moins 30 000 sauveurs. Pour un sauveur, il y a ceux qui aident, ne fût-ce que le boulanger qui sait qu'on vient chercher plus de pain et qui se tait. Et à l'époque, se taire, c'était un risque aussi parce que on pouvait être reproché de ne pas collaborer. Donc, on peut multiplier certainement par deux ou trois, sinon par dix, les 30 000. Enfin, il y a au moins quelques centaines de milliers de sauveurs ou sauveteurs ou aidants. Bon, c'est considérable, considérable. Seulement, comme c'était clandestin, ces gens sont restés anonymes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la plupart de ceux qui ont sauvé l'ont fait vraiment en âme et conscience et pour aider l'autre, par solidarité, parce que ça leur était naturel de le faire. Ils n'ont jamais revendiqué, la plupart n'ont jamais revendiqué. Bon, ils n'en parlaient même pas dans leur famille, souvent. On a de plus en plus des petits-enfants qui viennent nous dire « mais on ne savait pas que, est-ce que vous ne pourriez pas introduire un dossier ?» ainsi de suite. Donc, il y a eu quand même un effort dans la population, un effort de solidarité et qui fait que sans eux, il n'y aurait plus de communauté juive.
C'est ça.
Ils ont permis à la moitié du judaïsme belge de survivre. Et on sait bien qu'à partir d'un certain seuil, une communauté ne peut plus se renouveler. C'est un de nos drapeaux, si on peut dire, c'est de rendre hommage à ceux qu'on peut considérer comme parmi les meilleurs citoyens de ce pays. Et c'est l'honneur de ce pays. Ils ont sauvé l'honneur du pays. Et c'est comme ça qu'on a pu organiser alors pendant plus d'un an une douzaine d'événements en leur hommage. Et ça a été reconnu au palais, puisque on a eu le patronage, le haut patronage de Sa Majesté le Roi, ce qui est quand même assez considérable. Et on en a été très touchés. Donc, voilà un peu notre combat. Mais avant cela, je parle maintenant de ceux qui ont sauvé, mais pour les sauver, il y a eu toute cette action pour faire reconnaître un statut. Mm-hmm. Puisque les enfants cachés n'étaient pas conscients d'être une catégorie. Or, Maxime Steinberg, dans la préface d'un ouvrage que j'avais consacré au home de la IVG, dans sa préface, il commence par dire que, en fait, l'enfant caché est la troisième figure mémorielle, après le rescapé des camps et après le résistant.
C'est ça.
Résistant juif, évidemment, aussi. Et donc, cette image de l'enfant caché est importante, et c'est important que ce label puisse continuer.
Absolument.
C'est indispensable.
Parce que vous voyez, par exemple, les déportés, je ne sais pas s'il y en a encore. Oui,
il y en a quelques-uns, mais oui, de plus en plus rares.
Oui, il y a le couple Ziggy Hirsch et Vania, sa femme déjà.
Et Alberto Israel aussi.
Voilà. Voilà. Donc, mais l'association continue quand même en tant qu'institution. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Sophie Reichmann, c'est elle qui a fondé l'Enfant caché. Encore une fois, ce n'est pas un hasard que ce soit une femme. Ça me paraît naturel. Ce n'est pas du sexisme. Mais enfin, c'est dans la nature du social, si je peux dire. Bon. Et donc, c'est vraiment elle qui a porté cette association. C'était son âme, c'était sa vie. Ça reste son association. Et donc, quand on prend la présidence après elle, on a un peu peur d'usurper ce qui ne nous revient pas. Quoi. Mais enfin,
pas,
bon.
Sûrement mais, pas.
Mais d'un autre côté, elle doit être contente que l'on continue son œuvre.
Si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote, puisque la première fois que je suis montée au cinquième étage au service social juif qui abrite l'association L'Enfant Caché, je vois un panneau « L'Enfant Caché est à droite au fond du couloir ». Je trouvais ça très mignon parce que ça reflète bien un petit peu l'esprit de l'enfant caché proprement dit. Est-ce qu'on peut enchaîner, Adolphe ?
Le fond du couloir, mais pas à droite, nécessairement.
Mais là, c'était à droite. Enfin, ça dépend dans quel sens on tourne. Moi, je voudrais revenir sur vous un petit peu, et puisque vous avez écrit la première thèse sur le cinéma en Belgique et la toute première thèse aussi sur Charlie Chaplin dans le monde. Donc, vous avez d'ailleurs, sur base de vos connaissances et de votre expertise, vous avez conçu et réalisé à Paris un premier colloque, Charlie Chaplin, que vous avez d'ailleurs écrit, et vous avez d'ailleurs écrit un essai, Charlie Chaplin, l'âge d'or du comique. Un livre salué par la presse qui le qualifie d'incontestablement une des meilleures études sur Chaplin. Alors, pourquoi ce sujet ? Et êtes-vous un passionné de Charlie Chaplin ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce personnage ?
Des passionnés de Charlie Chaplin, il y en a des millions dans le monde.
Ça, c'est sûr.
On m'a souvent posé la question, alors il y a des raisons que je ne connais pas et d'autres que je connais. Quand j'étais dans les Houms de la IVG, on nous a projeté des charlots. Quand on allait à la mer, mais vous avez les marchands de glace et au fond de leur salle, ils projetaient des petits charlots. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Nous, on ne pouvait pas se payer les entrées. Alors, furtivement, passait comme ça, et on voyait une ombre de Charlot. C'est une ombre sur le cinéma, c'est de l'ombre. Mais, enfin, ça, c'est la petite histoire. Mais je me suis rendu compte après que, avec cette image de Charlot, mais j'avais un masque, puisque on dit que c'était un personnage comique, mais on oublie souvent qu'il est comique en fonction du tragique. Il escamote le tragique. C'est une image de la résilience, Charlot. Et donc, peut-être cette image-là m'interpellait. Et surtout, lui, qui était connu dans le monde entier, très rapidement, après un an, il était déjà célèbre. Il commence en 1914 et en 1915, les poètes comme Apollinaire, Sandrard allaient le voir en France. Bon. Et donc, lui, il pouvait être montré dans le monde entier et nous, on devait être cachés au monde entier. Donc, j'avais vraiment une image inversée de notre condition, de ma condition. Et comme partout, puisque le livre a été recensé, un peu encensé, je pouvais me présenter avec une image comique. Ce qui fait que ça déjouait la pitié qu'on pouvait me manifester. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je ne voyais que le personnage comique. Ce n'est que sur le tard que j'ai commencé à voir qu'il y avait tout ce fond de la misère, du vagabond qui n'a... il n'a pas de famille, en plus. Ça, c'est une image aussi. Charlot, c'est celui qui... on ne sait pas d'où il vient. On ne peut pas lui attribuer une famille et on ne sait pas où il va. Donc c'était aussi quelque chose qui nous était proche. Et par ailleurs, mais j'ai pu, alors quand j'ai commencé à écrire mon histoire, mon enfance, que je n'osais... En fait, quand mon premier livre, L'âge d'or du comique, je l'ai appelé comme ça parce que quel est l'âge d'or du comique ? C'est l'âge où on parvenait à faire rire tout le monde. Les enfants, tout naturellement, on rit avec eux, ils sont amusants, on les trouve amusants. Et j'ai pu montrer que Charlie Chaplin, pour faire rire, exploite l'enfance. Mais pas seulement l'enfance, mais même la petite enfance. Il y a plein de traits comme ça. En fait, tout ce livre, c'est des centaines de traits à tous les niveaux de son physique, de sa psychologie, qui, où il se réfère vraiment à la petite enfance. Deux cas, par exemple, il attache son pantalon qui est trop grand pour lui avec une épingle de nourrice. Bon. Et quand il est muet, mais seulement quand il est question de passer au parlant, il lutte et il continue à faire du film muet. Et pour moi, ça veut dire qu'il continue à être à l'âge où on ne parle pas encore. Et le mot en anglais, infant, veut dire qu'il ne parle pas. Infant. Infant, en latin, c'est in, c'est non, c'est négatif. Fan, c'est parler, bon, il ne parle pas. Donc plus il est muet, plus il est petit.
Dans l'enfance.
Bon. Et donc il fait toutes sortes de choses. On voit bien qu'il n'est pas socialisé. Il est vraiment en dessous de 3 ans, même 2 ans, etc. Et quand il s'endort, on dit en chien de fusil, mais en fait c'est la position fœtale. Bon, enfin, voilà. Donc l'âge d'or du comique. Mais quand j'ai donc osé écrire sur ma propre enfance, j'ai osé un peu sortir de ma cache, eh bien, je me suis rendu compte que le kit, par exemple, le scénario du kit, je l'avais un peu vécu. Parce que dans le kit, vous avez un enfant exposé, trouvé par Charlot, il l'élève, donc il a un foster parent, enfin un père nourricier, et un sauveur, donc. Et cet enfant lui est enlevé, arraché. Ce qui a été mon cas aussi après la guerre. Et donc, cet enfant, finalement, Charlot va le récupérer. Les gens qui m'ont sauvé m'ont un peu récupéré comme ça aussi. Enfin bref, dans ce film, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais je vois ma vie.
C'est moi.
C'est moi. Et mais déjà, les gens qui sont au cinéma s'identifient très fort aux héros dans les films. Mais là, en plus, je pouvais m'identifier de manière encore plus proche puisque c'était assez comparable avec ce que j'avais vécu. Donc voilà un peu, on peut encore en parler, des motivations. Mais...
Vous avez aussi, Adolphe, écrit des textes pour le théâtre, mm-hmm. et notamment en 1998, « Mère de guerre mm-hmm. ». Le pitch, si je me trompe, c'est la mère déportée et la mère adoptive qui se dispute le fils. Mm-hmm. Et le fils doit savoir avec laquelle il doit partir. Et en fait, on constate que votre théâtre s'articule autour des thèmes que sont la mort, la possession et la mémoire. Toujours la mémoire. Vous êtes toujours... Mm-hmm. Vous rappelez la mémoire. Mm-hmm. Voilà, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu.
Mais écoutez, on est au lendemain où la pièce a été jouée hier.
Ouais.
Et la salle était comble. D'ailleurs, la majorité du public était hors de la communauté juive. Et c'est très bien, parce qu'alors, ouais. on peut rencontrer l'autre. Et surtout dans la pièce, on peut voir que, il y a des gens qui ont sauvé un enfant juif au risque de leur vie. Et donc, non seulement l'ont sauvé, mais l'ont aimé et adoré. Bon. Et pour moi, ça me paraît une bonne image pour essayer de lutter un peu contre l'antisémitisme, parce que ça montre que haïr les Juifs n'est pas une fatalité, et ça peut peut-être faire réfléchir ceux-là, que, tiens, il y a des gens qui aiment les Juifs. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Mais dans la pièce, les le parrain et la marraine, en fait, sont morts. Et ils reviennent, ce sont des revenants.
C'est ça.
La mère, elle, est morte depuis très longtemps, en déportation, et il se fait qu'ils se rencontrent sur scène. Et donc, il y a un peu le combat, le conflit entre les deux mères, parce que quelle est la vraie ? Et comme souvent les pièces de théâtre, on prend une situation extrême, donc la veille de la mort, c'est souvent le cas dans les pièces de théâtre, c'est le cas ici aussi. Donc le fils va mourir, mais alors avec qui ? Il va aller vivre dans l'au-delà. Et comment est-ce fait que j'ai pu imaginer que ces trois personnes mortes reviennent sur scène ? C'est parce que j'imagine que le parrain, durant sa vie, était celui qui précédait les corbillards. À l'époque, vous aviez une sorte de maître de cérémonie et qui emmène donc les vivants dans la mort. Et ici, il vient dire, mais je continue à travailler, mais je le fais dans le sens inverse, j'amène des morts à la vie.
À la vie.
Et c'est comme ça que le fils mourant dit, mais maintenant, ben c'est le dernier instant où je pourrais encore quand même une fois voir ma mère, ben va la chercher. Et donc, c'est lui qui l'amène. Voilà. Il était déjà venu, le couple était venu ensemble. Et, donc, bon. Et puis, à un certain moment donné, il y a la mère qui vient, et il y a cette dispute entre les deux, ce qui est un peu dur. Mais la mère... La jeune mère qui est morte à 18 ans, non seulement elle est jalouse de l'autre, mais elle vient aussi réclamer qu'on lui a volé sa jeunesse, en fait. Et en réclamant son fils, elle réclame sa jeunesse. Alors, dans la pièce, les sauveurs ne sont pas présentés comme des saints. Ils sont présentés dans leur complexité. Parce que notamment, il y a la question qui se pose, mais pourquoi eux n'ont pas eu d'enfants ? Alors là, il y a une zone d'ombre, et donc, en fait, chaque sauveur avait ses zones d'ombre, ce qui les rendait humains. Et quand on a un peu tendance, dans les cérémonies mémorielles, d'en faire des saints, on ne leur rend pas tout à fait justice, parce que... Alors c'est trop facile, s'ils étaient des saints, ben, risquer leur vie, c'est rien du tout. Tandis que si on a des motivations peut-être un peu troubles ou enfin qui ne sont peut-être pas tout à fait avouables, comme chacun, on a des faiblesses, je trouve que c'est d'autant plus méritant ce qu'ils ont fait.
Absolument.
Et donc, c'est ce qui il y a eu un petit débat après, c'est ce qui a été reçu par les gens qui trouvaient que les personnages étaient vrais. Voilà. Et que ce n'était pas de la langue de bois. Bon, voilà, ça, c'était cette pièce-là.
Il nous reste vraiment quelques minutes. Mm-hmm. Et j'aimerais bien qu'on s'attarde sur votre très belle œuvre dont j'ai parlé en tout début d'émission, « Boubeleu, l'enfant à l'ombre ». C'est un peu votre autobiographie.
Oui, bien sûr. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous l'avez rappelé, c'est en 1980, quand mes sauveurs sont morts, décédés, que je trouvais... Enfin, tout était perdu. Il n'y avait plus rien qui existait. Parce que vous avez dit que mes parents n'étaient pas revenus, mais toute ma famille, des dizaines de personnes, dont je ne sais même, je suppose qu'il y avait des dizaines de personnes. Il n'y a qu'un oncle sur les 13 oncles et tantes dont lui m'a parlé. Il n'y en a qu'un qui a survécu en Pologne. Et en Belgique, il n'y avait personne d'autre que mes deux parents. Donc, je ne sais plus ce que j'allais dire.
Vous étiez, vous étiez seul, en fait.
Oui. Et ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. enfin, bref.
Mais il y a beaucoup de vous dans tous vos ouvrages, en fait.
Mais vous savez, un auteur écrit ce qu'il est.
Absolument.
Donc, il y a une projection d'une part ou de l'autre, parfois plus complète ou moins complète. Mais oui, c'est d'inspiration autobiographique. En fait, tous les faits sont vrais. Tous les faits sont vrais. Qu'est-ce qui est, je ne vais pas dire faux, mais qu'est-ce qui est inventé, ce sont les mots. Et on sait très bien que quand on doit dire quelque chose, on choisit les mots parmi des synonymes. Et parfois, un synonyme peut être péjoratif ou trop élevé ou peut être pédant. Ou... Donc, y a ce travail-là que j'ai fait et qui fait que j'ai dû faire ce travail d'être apparemment simple parce que je donne la parole à l'enfant. Et ça, c'est très rare parce que j'ai lu beaucoup d'autobiographies après. Et peut-être que je n'ai pas lu avant pour ne pas être influencé ou quoi, ou enfin bref, ou bien je me serais dit, tout a été déjà dit, je n'ai plus rien à dire. Mais après, donc, j'ai eu la surprise de voir que la plupart, il n'y a pratiquement pas d'autobiographie d'enfant caché, où c'est un enfant de 2-3 ans qui parle, par la force des choses, puisque c'est, on est infant. Et donc, le problème s'était posé, est-ce que je vais parler bébé ou comment le faire parler? Et j'ai travaillé, pas sur les mots là, mais j'ai travaillé sur des logiques. Comme par exemple, l'enfant qui se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a la guerre pour mes parents et pas pour les gens d'ici? Donc, ils sont partis, on me dit c'est la guerre. Et pour eux, c'est pas la guerre alors. Enfin, donc, j'ai essayé de travailler sur des naïvetés comme ça. D'ailleurs, la première phrase, c'est quand demain? Ça, c'est une phrase d'enfant.
Tout à fait.
Et donc, dès le départ, on a l'enfant qui se pose la question. Il est en attente. C'est une attente. Qu'est-ce qu'il attend? Et donc, j'amorce le récit par une énigme. Et on va aller d'énigme en énigme, comme ça. Enfin, c'est travailler comme ça. Donc, il y a un travail, romanesque, un travail littéraire, mais sur du vécu. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais alors, pour les négationnistes, ils vont vous dire, vous voyez, c'est inventé, etc. Mais là, j'ai la réponse toute prête, même quand on dit la vérité, il nie quand même.
De toute façon.
Voilà. Mais sans ce travail, on ne touche pas le lecteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à le composer. J'ai commencé en 80 et ça a été publié en 2007.
Ouais. Bon. C'est un long accouchement pour un bébé.
Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est que comme je me montre dans toute ma fragilité, là, c'était pas possible de publier ça quand j'étais en fonction où on m'appelait professeur et où il faut être fort, etc. Je voulais pas m'offrir au ricanement des étudiants qui n'auraient pas eu de bons points en disant bah oui, regarde, enfin bon, il écrit des trucs comme ça, c'est pas
normal
qui m'abuse. Enfin bon.
C'est vraiment donc, passionnant, voilà. Vraiment, vraiment passionnant. Bravo pour votre œuvre, c'est une merveille. Ben vous alors, avez amené quelques œuvres.
Je peux vous offrir ça.
Ah, c'est gentil.
Vous seriez merci. Deux.
Merci.
Alors, il y a mon chapelain, mon dernier.
On apprend le toit, Véro.
Merci beaucoup.
Magnifique. Et alors, je ne sais pas qui je vais donner. Le Boubeleu.
Vous choisissez.
Ah, ben, je veux bien Boubeleu.
Vous choisissez.
Alors ça, c'est l'édition originale.
Ah, magnifique.
Il a été republié et puis il est en version néerlandophone. Quelqu'un lit le néerlandais ici?
Oui, l'amico, bien sûr.
Oui, oui.
Eh bien, voilà, il a été très bien traduit
merci
par un poète qui s'appelle Van den Bremt et qui est un très bon poète.
Parfait. Eh bien, Adolphe, mille merci pour cet entretien. C'était magnifique, super intéressant.
C'est moi qui vous remercie.
Bravo.
Le Raïm.
Eh bien, Raïm, bravo. Vraiment... c'était passionnant. Mille merci d'être venu. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission, les rendez-vous du CCOJB. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Vous pourrez écouter à partir de mercredi, jeudi et dimanche l'émission de ce jour. Mais vous pourrez également la voir sur le Facebook de Radio Judaïka et en podcast. Merci à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci Adolphe, merci Véro, merci Clément et à la prochaine émission.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.